BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Cette semaine, on va parler de LinkedIn avec la directrice éditoriale Monde, celle qui hiérarchise l'actualité pour les cadres du monde entier. Elle est française, elle sera avec nous dans un instant. On va parler également du dirigeant et de la manière dont il peut embarquer toute une entreprise dans l'évolution RSE. On sera avec Axelle Paquer, elle est présidente de Bearing Point en France. Et puis on va parler des crèches et de la parentalité avec Marine Desandres. Elle a créé Ma Place en Crèche. Happy Boulot, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine dirige le monde, c'est Sandrine Chauvin. Bonjour, directrice éditoriale Monde de LinkedIn. Mais quelle responsabilité, 830 millions de membres en 2022 sur LinkedIn qui lisent ce que vous ou vos équipes, pas vous personnellement, mais ont hiérarchisé comme fil d'actualité. Comment vous triez l'actualité pour 830 millions de membres ?
Dont 77% à l'international, donc effectivement ça fait beaucoup de monde. Donc on trie l'actualité exactement comme une rédaction dans un journal. On fait une réunion de rédaction où on discute des sujets dont on va parler chaque jour, dans chaque pays, évidemment dans chaque langue locale. Et ensuite on ajuste, ensuite on regarde aussi ce que les membres publient sur la plateforme. Et en fonction de ce qu'ils publient, on fait aussi des couvertures dédiées en fonction des conversations qui sont sur la plateforme.
Alors j'imagine chez LinkedIn qu'il y avait toute une flopée de candidats et de candidates. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont choisi une Française ?
Ils ont choisi une Française parce que j'étais une des premières éditrices et journalistes à l'international, puisque j'ai commencé avec quelqu'un qui était en Inde et avec quelqu'un qui était au Brésil. Et ensuite, j'ai monté tout le projet et toute la stratégie éditoriale en France qui a marché. Et c'est ensuite ce qu'on met en place dans tous les autres pays.
Donc, c'est votre vision internationale. Et pourtant, il n'y a pas plus nationale qu'une vision de l'actualité. On parle à une communauté précise. Donc, pourquoi, quel est l'intérêt d'avoir une vision internationale alors qu'on parle à des communautés très précises ?
Alors en fait, on a une stratégie à l'international qu'on déploie au niveau local et l'idée, c'est justement de capturer ces spécificités au niveau local, ces actualités au niveau local pour s'assurer qu'elles soient pertinentes au niveau local. Donc dans chaque pays, aujourd'hui on a 15 pays, on a bientôt 200 journalistes qui vont publier du contenu dans 11 langues, de s'assurer que le contenu est pertinent pour nos membres au niveau local et surtout que l'information leur arrive au bon moment, qu'elle soit pertinente d'un point de vue de leur métier, du point de vue de leur entreprise et du point de vue de leur secteur.
Alors, qu'est-ce qu'ils veulent savoir, par exemple, les 24 millions de Français qui sont sur LinkedIn en France, eux, qu'est-ce qui les intéresse ? Pourquoi ils vont chercher de la news sur LinkedIn ?
Alors, ils viennent pour plusieurs choses. La première chose, c'est évidemment rechercher un emploi. Donc, on les accompagne aussi avec du contenu, des conseils, etc. Notamment, on a des créateurs de contenu qui sont experts de tous ces sujets-là. C'est vrai pour les jeunes diplômés, c'est vrai aussi pour les personnes plus seniors, c'est vrai aussi pour les demandeurs d'emploi. Ensuite, ils viennent chercher vraiment des informations très spécifiques sur leur secteur. Donc là, justement, on est en train de monter des équipes avec des journalistes spécialisés et des consultants qui vont accompagner des créateurs qui sont experts de ce sujet-là pour justement leur fournir encore plus d'actualités et d'informations très précises sur leur secteur.
Mais alors, c'est sans fin. Vous prenez tous les secteurs, comment vous choisissez ?
Alors, on choisit les secteurs là où on a la plus grosse base de membres. Ça, c'est le premier point. Ensuite, au-delà de couvrir un secteur, on va plutôt couvrir des sujets. Par exemple, si on prend l'exemple de la finance, on va couvrir des cryptos jusqu'au fintech, jusqu'aux grandes banques, jusqu'à l'assurance, etc. Donc, ça va nous permettre de couvrir un grand champ. Et ensuite, au-delà du travail journalistique qui va être fait, notre mission, c'est quand même du journaliste conversationnel, c'est-à-dire qu'on fait une conférence de rédaction qui est aussi basée sur ce que les membres produisent et de mettre en avant ce que les experts, ce que les membres produisent. Donc c'est ça la principale mission, ce qui nous permet de ne pas avoir des experts de X ou Y sujet, mais de s'appuyer sur ce réseau d'experts au niveau français, mais aussi au niveau international.
Donc c'est du journalisme, mais sans fin en fait, avec une source infinie.
Avec une source infinie, les 830 millions de membres dont vous parlez.
C'est quoi le sujet qui marche le mieux dans le monde ?
Le sujet environnement marche très très bien. Bon, pour la raison qu'on connaît, on avait notamment sorti une liste qui s'appelait Top Voices Environnement en France, Top Voices Green dans les autres pays, et je ne vous ferai pas toutes les langues parce que je ne parle pas les 11 langues, je précise. Et là, ça avait très très bien marché puisque ça avait permis d'engager des sujets sur l'innovation qui peut être implantée dans les entreprises, mais au niveau économique, mais aussi via des start-up au niveau du changement climatique, en tout cas pour lutter contre le changement climatique.
C'est quoi pour vous un bon profil, un bon expert? C'est celui qui a vraiment une bonne audience, qui marche bien? C'est celui qui a une communauté scientifique? C'est celui qui a des... Parce qu'on voit bien, vous pouvez être puissant, mais sans être d'ailleurs très influent. Vous pouvez être suivi, mais ne pas avoir beaucoup d'impact. Comment vous définissez, vous, ce que c'est qu'un bon expert?
Alors nous, on regarde deux critères. Le premier, c'est d'abord la qualité du contenu. S'il fait du contenu qui est très large, sans angle, comme on dit dans le métier du journalisme, ça va avoir moins d'impact. Et ensuite, on regarde s'il a su fédérer autour de lui, au-delà des gens qui le suivent ou au-delà de ses connexions, une communauté d'experts autour de lui. Et c'est ça qui va faire la force de son contenu.
Donc c'est lui et la qualité des gens qui le suivent.
Voilà, exactement. Plus la régularité aussi, parce que si on poste qu'une fois de temps en temps, c'est-à-dire par exemple une fois par mois, du coup ça amenuise l'influence. Donc il est quand même recommandé de poster régulièrement pour alimenter cette communauté.
Et dans ce que vous choisissez de faire remonter comme contenu, vous vous dites je fais un peu de politique, un peu d'expert scientifique, si on prend l'environnement par exemple, ou vous dites je regarde ce qui marche et puis après je fais un petit tri?
Alors non, on regarde pas spécialement ce qui marche, même si en fait on collecte des données sur LinkedIn avec les contributeurs qui reçoivent le plus d'engagement. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on regarde leur communauté. Ensuite, on regarde la qualité de leur contenu. Et ensuite, on regarde la fréquence de leur contenu. Et ensuite, on publie notamment ces listes Top Voices. Et quand il s'agit des pages à la une qu'on crée au quotidien ou le récap actu qu'on crée au quotidien...
Donc là, c'est un poste qui va ressortir.
Un poste, un membre. Mais en fait, on utilise notre moteur de recherche en interne. On va rechercher des contenus. Ensuite, les journalistes vont les lire, vont vérifier que la personne a une certaine légitimité pour partager un contenu sur ce sujet-là et va mettre en avant cette personne et ses experts au sein de cette page à la une. Donc en fait, une page à la une va agréger plusieurs postes de membres avec des sujets et des points de vue différents.
Est-ce qu'il y a toujours autant de contenu de coaching, de waouh, de tout va bien, suivez-moi, c'est la super life attitude, où on va vers de plus en plus d'expertise, de contenu très précis? Ou alors moi j'ai beaucoup de pages de coaching parce que j'ai beaucoup de RH.
Alors, on peut faire le tri dans ce qu'on reçoit dans son fil d'actualité. On clique sur les trois petits points et on dit ne plus suivre si ça vous intéresse pas. Donc, j'encourage ceux qui nous écoutent
à faire le tri,
parce qu'au final, on a le fil d'actualité qu'on veut bien aussi recevoir. Et le deuxième point, c'est que oui, il y a toujours des gens qui partagent ça, mais c'est pas la majorité. Moi, ce que je vois, c'est quand même des expertises très pointues. C'est vrai sur les sujets environnement, c'est vrai sur les sujets des crypto-monnaies, par exemple. C'est vrai sur les sujets de la cybersécurité. C'est vrai sur l'inflation. On a des gens qui partagent des analyses très techniques et très pointues sur tous ces sujets-là et qui fédèrent toute une communauté. L'objectif, c'est pas d'avoir une communauté massive, c'est d'avoir une communauté de qualité et c'est ce qui fait qu'on est un réseau professionnel.
Est-ce que vous encouragez tout le monde à s'exprimer sur LinkedIn sur son expertise ou finalement, à un moment, ça peut être contre-productif parce que je suis pas forcément le meilleur expert que je croyais être et en fait je me donne une vitrine qui peut-être n'est pas positive?
Alors je pense que c'est toujours bien de s'exprimer sur son domaine d'expertise. Après, une expertise, c'est quoi? Il y a plusieurs paramètres. Ça peut être son actualité liée à son activité professionnelle, ça peut être l'actualité de son entreprise, ça peut être une actualité aussi un peu plus large qui concerne son secteur et qu'on a envie de partager avec le reste de son réseau pour les accompagner et leur permettre de faire de la veille. Voilà, donc au final c'est quand même assez varié et il n'y a pas non plus que des contenus très spécifiques.
Est-ce qu'il faut y mettre du perso à l'intérieur?
Alors perso, oui et non. Et je pense qu'en étant un réseau professionnel, de toute façon, on s'auto-modère. Puisqu'on tout ce qu'on fait, on le fait avec son profil LinkedIn. Donc on le fait directement avec son curriculum vitae. Donc il ne faut pas oublier que ça peut être entre les mains d'un recruteur, ça peut être entre les mains de son manager, etc. Donc il y a quand même une certaine modération. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a des postes de très bonne qualité.
Qu'est-ce que vous allez faire après, maintenant que vous avez dirigé l'éditorial Monde? C'est quoi votre prochaine étape?
Alors mon premier challenge, c'est déjà d'organiser cette équipe, puisque là on est 120 au niveau international, enfin plus précisément au niveau international on est 60 et on sera bientôt 120, donc déjà organiser cette équipe, faire en sorte que justement on déploie cette stratégie dans chaque pays et qu'elle soit au-delà de la stratégie internationale très localisée, s'assurer par exemple qu'en France on a les contenus que les Français attendent, qui servent les professionnels pour les aider à s'orienter, à comprendre le futur du travail, à comprendre tout le monde qui est quand même complexe et qui évolue très vite, notamment avec un environnement économique quand même assez instable. Et quand on aura déjà fait ça, ensuite je reviens vous parler pour vous dire quelle sera la suite.
Non, mais parce que quand même, c'est un titre qui pose et qui en impose.
Oui, c'est vrai. Peut-être je me rends pas compte.
Ah bah moi, je vous le dis, ça m'impressionne.
Merci, Laure Chipaté.
Quand on est directeur monde, moi, ça m'impressionne. Sur LinkedIn, est-ce qu'on trouve toujours aussi bien du travail ou est-ce que, de toute façon, vu que tout le monde cherche partout, c'est la folie, les talents reçoivent des milliers de messages, ça se passe comment aujourd'hui?
Alors, on trouve du travail sur LinkedIn, c'est la première mission. On se crée aussi un réseau parce que, bah, comme vous le savez, 70% des emplois se trouvent sur le marché caché. Et ça, faut le construire dès son plus jeune âge, quand on commence à l'école, quand on est en stage, etc. Pour justement s'appuyer sur son réseau pour pouvoir trouver un emploi. Et ensuite, on construit une carrière. Ça veut dire quoi, construire une carrière? Vous parliez de mon titre. Ça veut dire avoir des objectifs, chacun qui sont plus ou moins personnels selon les gens, pour voir... où est-ce qu'on a envie d'aller, dans quel secteur on a envie de travailler, comment on a envie d'organiser sa vie pro, sa vie perso, etc. Et en fait, il y a plein d'opportunités qui sont sur la plateforme. Et si on est entrepreneur, évidemment, ça permet d'avoir des missions, d'entrer en contact avec des clients, etc. Donc, il y a plein de
choses. On fait du business sur LinkedIn.
On peut faire du business sur LinkedIn. D'ailleurs, c'est très utilisé pour trouver des missions. C'est aussi pour ça que les créateurs de contenu publient. Ils ont une communauté qui leur permet ensuite de...
Est-ce que vous allez rémunérer un jour les créateurs de contenu?
Alors, on rémunère déjà les créateurs, en tout cas certains, via un programme qui s'appelle le Creator Accelerator Programme, donc le programme d'accélération des créateurs en bon français dans le texte. Qui a un programme doté de 25 millions de dollars qu'on a mis en place en Inde, on vient de le lancer au Brésil et au Royaume-Uni, vraisemblablement bientôt en France. Pareil, je reviendrai dès qu'on a le scoop à vous annoncer, et on rémunère les créateurs à hauteur de 15 000 dollars.
Mais voilà. Ça sera des cibles, des gens
ça
précis.
Ça sera des cibles, faudra candidater, et ensuite il y aura un jury, et ensuite ils seront accompagnés pendant 20 semaines.
Donc comme des influenceurs internes?
Comme des influenceurs, qui ne sont pas internes, hein, ce n'est pas des gens chez LinkedIn.
Mais non, définis quoi. Exactement. Choisi par vous en tout cas.
Voilà, choisi par nous, et ensuite ce programme il sera relancé chaque année avec des nouvelles...
C'est une sorte d'incubateur.
Exactement, c'est un incubateur de créateurs de contenu sur la plateforme.
Et vous n'allez pas rémunérer le like?
Non, on va pas rémunérer le like. C'est pas prévu, ça n'a jamais été fait, il n'y a pas de raison que ça vienne. Et j'ai un petit scoop pour vous, puisque vous me demandiez comment on gère les créateurs, les contenus, etc. On lance cette semaine un nouveau format qui s'appelle En Bref, qui est un récapitulatif de l'actualité où justement on va continuer à mettre en avant les créateurs chaque jour, et aussi les journalistes qui publient du contenu de qualité et qui peuvent être intéressants pour nos membres. Donc je vous invite à suivre LinkedIn Actualité.
Merci pour ce scoop. Sandrine Chauvin, directrice éditoriale Monde de LinkedIn. On vous laisse à votre à la direction de la planète. Moi, ce titre m'impressionne, franchement. On va continuer à parler des ressources humaines ensemble, à parler d'exemplarité des dirigeants.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Better Together.
Et on va parler des dirigeants et de leur capacité à embarquer leurs équipes derrière eux. On est avec Axel Paquer. Bonjour, vous êtes président de France chez Bering Pong, co-auteur du rapport Enseignement supérieur et recherche. Il est temps d'agir. On va parler de la responsabilité du dirigeant, de sa capacité à emmener ses équipes. On parle souvent d'un dirigeant qu'on veut exemplaire, qu'on veut... avoir envie de suivre en toutes circonstances, est-ce qu'on lui en demande pas un peu beaucoup?
Alors on en demande beaucoup aux dirigeants, mais parce qu'on en demande aussi beaucoup à l'entreprise aujourd'hui, parce qu'on a conscience que l'entreprise est une entité clé pour mesurer l'impact social et environnemental que cette entité, que l'ensemble de ses collaborateurs peuvent avoir sur leur écosystème, sur la planète, sur leurs collaborateurs. Et donc quelque part, le dirigeant à la tête de l'entreprise, il ne peut plus nier cette responsabilité qu'il a en tant que dirigeant. Et c'est pour ça que l'enjeu climatique est à l'agenda de tous les COMEX aujourd'hui et de tous les dirigeants aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent plus être dans le déni et qu'ils savent qu'aujourd'hui, non seulement ils ont besoin d'évoluer dans leur modèle, mais que c'est une question aussi de survie par rapport à leur entreprise aujourd'hui, que d'être en capacité d'intégrer ces paramètres dans leur modèle d'affaires et dans leur modèle économique.
Vous avez l'impression que la société en attend plus pour évoluer sur le plan de la RSE, sur le plan climatique, du chef d'entreprise que du politique? On a l'impression que c'est là que ça va se passer?
Alors, en tout cas, l'un n'ira pas sans l'autre et on a besoin des deux. Mais le dirigeant d'entreprise, il a une capacité d'action directe et indirecte en mesurant à la fois son empreinte carbone et tout l'impact de son activité sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, non seulement sur ce qu'on appelle son scope 1 et 2, donc ses activités directes, l'énergie, mais également son scope 3, donc tout son écosystème, ses fournisseurs. Et c'est aujourd'hui ce qui est demandé aux entreprises. Et au-delà des obligations réglementaires, les dirigeants d'entreprise savent qu'ils doivent anticiper ces évolutions et être en capacité non seulement de mesurer aujourd'hui leur empreinte carbone, mais de piloter leur activité en ayant cette boussole de quel sera l'impact de mes décisions d'aujourd'hui sur demain, sur l'environnement de demain, sur les générations futures. Aujourd'hui, ça fait partie des décisions d'investissement.
Ils en sont tout cela, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de convaincre, on discute pas sur la question du réchauffement climatique. On en est déjà à ceux qui ont considéré leur scope et ils en sont à voir plus loin. On n'en est pas à, j'ai pas encore fait mon bilan carbone parce que j'ai pas très envie en fait de connaître mon impact. Alors, ils ont déjà fait ce bilan-là ?
Alors, je pense que la prise de conscience, elle est déjà là. Maintenant, le comment, beaucoup de choses restent à faire. Chez Bearing Point, on a mené une étude fin d'année 2021 où on s'est rendu compte que 80% des entreprises aujourd'hui ne sont pas capables de mesurer leur scope 1 et 2. C'est pas qu'elles n'en le souhaitent pas, c'est qu'elles ne voient pas comment être en capacité justement de traiter ces éléments. C'est pour ça qu'on leur propose aujourd'hui une solution qui leur permet déjà de mesurer leur empreinte carbone sur tout le scope 3, donc fournisseurs inclus, et c'est le point de départ, je dirais, de la prise de conscience déjà de connaître son bilan carbone. Et ensuite, bien évidemment, aller au-delà et travailler sur le comment, la feuille de route, les actions. Non, je ne vais pas vous dire que c'est fait aujourd'hui et qu'il ne plus rien reste à faire, mais en tout cas, la prise de conscience est là et le dirigeant ne peut plus nier sa responsabilité.
Et il n'y a pas parfois, face à ce bilan, un petit peu de déception face à son propre bilan, mais en se disant le travail est immense.
Et colossal. Oui, le travail est colossal et ça peut être effectivement d'une telle envergure que ça peut effrayer. Mais en même temps, encore une fois, au niveau de l'entreprise, on a une capacité d'agir, une capacité d'action. Et non seulement on a cette capacité, mais aussi aujourd'hui, c'est un besoin qui est demandé par les collaborateurs. Oui. Les collaborateurs sont extrêmement exigeants et attentifs sur justement l'action de leur entreprise, qui est demandée par les clients. Et aujourd'hui, les clients, ils opèrent des choix, ils arbitrent. En fonction justement de la capacité qu'a une entreprise d'agir de manière responsable et en fonction de l'opinion dans son ensemble. Donc c'est pour ça que la responsabilité, elle est réelle et les dirigeants savent qu'ils ne peuvent plus reculer. Après, effectivement, le comment reste plein et entier.
Donc aujourd'hui, pour vous, le dirigeant, une fois qu'il a fait son bilan et qu'il sait à peu près où il en est, il doit être honnête avec l'ensemble de l'entreprise et dire voilà quel est le plan, voilà ce que nous allons faire. Nous allons tous aller dans ce sens parce que c'est notre responsabilité individuelle et collective.
Exactement, et ça n'est plus la responsabilité d'une seule partie de l'organisation. Vous mentionniez tout à l'heure la RSE. Ça doit irriguer l'ensemble des fonctions de l'entreprise.
Donc, c'est-à-dire pour vous, ça ne veut plus rien dire avoir une direction RSE ?
Ça ne suffit pas aujourd'hui. Ça doit toucher toutes les fonctions. Ça peut être piloté depuis une direction RSE, mais ça touche toutes les fonctions. Ça touche les opérations, le commercial, la finance, les ressources humaines. Toutes les fonctions de l'entreprise doivent être impliquées. Donc, il ne faut pas s'en tenir à quelques actions, je dirais, isolées RSE. Il faut bien un mouvement qui touche l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Et c'est aux dirigeants de l'impulser et de s'assurer effectivement que l'ensemble des fonctions de son entreprise sont bien embarquées dans cette transformation.
Mais il y a quelque chose qui a changé, c'est que c'est facile d'emmener les collaborateurs désormais sur ce sujet-là. C'est presque leur demande à eux.
Oui, c'est presque leur demande, mais au-delà de la demande, une fois que vous devez passer à l'action, ça nécessite aussi des choix qui peuvent avoir un impact sur le quotidien d'un certain nombre de collaborateurs. Et après, comme tout changement, c'est perturbateur, c'est anxiogène, donc ça aussi c'est un accompagnement. Mais vous avez raison, la volonté et la demande des collaborateurs sont réelles et aujourd'hui c'est un atout pour un dirigeant que de transformer son entreprise sachant qu'il saura utiliser quelque part la motivation de ses collaborateurs pour cette transformation.
Vous prenez la transparence totale sur la question du bilan carbone ?
Bien sûr.
Et vis-à-vis des collaborateurs, je veux dire.
Bien sûr, et sans attendre les obligations réglementaires. Je vais vous citer un exemple chez Bearing Point. On a défini en fait notre réduction carbone, on a défini un objectif par collaborateur et on le suit. Et ça fait partie de notre accord d'intéressement aujourd'hui. Les collaborateurs de Bearing Point savent que s'ils contribuent à la réduction de l'empreinte carbone, eh ben, ça fera partie justement des éléments qui seront regardés dans l'accord d'intéressement de l'entreprise.
Vous n'êtes pas la seule à être venue nous raconter ça. Ça se déploie, ça, la question de l'épargne salariale et de l'impact de chacun sur l'environnement. Merci beaucoup, Axel Paquer, d'être venue nous voir, présidente France chez Bering Pong. On va parler d'un tout autre sujet, des crèches.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Et on va parler des parents et des enfants avec Marine Desandres. Bonjour, vous êtes cofondatrice de Ma Place en Crèche. 80% des entreprises mettent en place des actions spécifiques à destination des parents. Que font les 20% restants? Est-ce que ce sont des entreprises de célibataires?
Non, je pense qu'on a des chiffres, des enquêtes qui nous disent que 89% des salariés en moyenne dans les entreprises sont touchés par la parentalité. Donc, ça représente vraiment tout le monde dans les entreprises. Et dans ces 80%, donc, qui viennent de l'enquête qu'on a fait avec l'INIT, donc, il y a quelques mois, c'est des parents, des DRH, donc, qui ont mis en place des actions dans leur entreprise qui sont un petit peu, le socle minimum, à savoir les mutuelles pour les parents, les mutuelles familiales, le télétravail et des horaires aménagés. Mais bon, c'est déjà ce que font beaucoup d'entreprises, donc ça permet pas beaucoup de se différencier des autres.
Vous, c'est un peu de on couvre quoi, mais c'est pas des vraies mesures. C'est quoi pour vous la vraie mesure?
La vraie mesure, c'est d'aller au-delà. Donc évidemment, ce qui est très fort et ce qui ressort dans notre enquête, c'est l'accompagnement avec des places en crèche pour aider les jeunes parents, et pas que chez les parents zen. Enfin, ex Ma Place en Crèche,
parce que vous allez changer de nom pour que les gens comprennent bien. Oui. Comme vous allez proposer une gamme, de services plus que la crèche, vous allez changer de nom.
Exactement. Donc dès la grossesse des parents et jusqu'à l'accompagnement d'adolescents et même de jeunes adultes, parce que il y a toute l'orientation scolaire et préparation au concours dans nos services. Et on a des services de coaching one to one.
Mais c'est, vous allez être un assistant familial?
On est toujours en B2B, hein. Donc nous on est là pour accompagner les DRH pour qu'ils puissent mettre en place une politique de parentalité qui est vraiment sur mesure en fonction des besoins de leurs collaborateurs.
Oui, mais du coup vous vous présentez comment pour le client final, vous dites nous on est sorte d'assistants de la famille, de tous vos problèmes familiaux, parce que les ados ils se gardent tout seuls, donc
mais ils ont des
problèmes.
Faut les aider. Les parents zen, je pense que la marque, justement, la nouvelle marque parle bien de ça. On est là pour que les parents soient zen au travail, donc qu'ils soient vraiment focus sur leur boulot et qu'on puisse les aider, que leur entreprise puisse leur donner les bonnes personnes, les bonnes coordonnées de personnes pour pouvoir les aider sur une problématique ou une autre. Donc c'est vraiment couvrir tous les besoins des parents. Donc on a du babysitting, je vous ai dit, des conférences, des ateliers, on a du soutien avec des psychologues, de l'aide aux devoirs, plein de choses. Et on a aussi une plateforme, surtout avec un contenu qui est fait par des experts, qui est très bien fait, donc par tranche d'âge des enfants. Donc en fonction de ces enfants, on peut aller piocher. Donc c'est des webinars, c'est du contenu rédactionnel, des vidéos.
Comment réagissent aujourd'hui les DRH que vous rencontrez? Ils ont, grâce au confinement, compris à quel point c'était important d'aider les parents. Certains se sont rendus compte que c'était quand même pas facile de télétravailler avec des enfants dans les pattes.
Oui.
Ils ont changé depuis le confinement, les DRH?
Oui.
Sur la parentalité?
Oui, alors c'est peut-être pas que les DRH, je pense que c'est au-dessus en fait. C'est parce qu'en général, c'est quand nos clients, quand ils prennent cette décision d'accompagner, enfin de mettre en place une politique parentalité, ça se décide en codir et les DRH n'étaient pas les plus compliqués à convaincre, mais c'est au-dessus, c'est souvent le DAF, c'est le chèque, hein, donc et je pense que le confinement a aidé à cette prise de conscience et que on peut plus voiler la face et qu'on sait que pour avoir des parents sereins et qui travaillent bien, il faut qu'ils soient équipés, qu'on les aide. Voilà, c'est plus uniquement c'est trop perso, on s'en occupe pas, c'est ok. On peut les aider pour qu'ils soient encore plus efficaces et surtout, ça permet aux entreprises, c'est un formidable outil RH, de se distinguer d'une autre entreprise. Et en ce moment, on est face à un mur de recrutement.
Donc sur l'attractivité, ça joue.
L'attractivité et aussi la fidélisation des collaborateurs. Parce qu'évidemment, quand on a son enfant en crèche, on réfléchit à deux fois avant de changer d'entreprise.
Merci beaucoup Marine Desandres d'être venue nous voir, cofondatrice de Ma Place en Crèche et donc bientôt des parents zen puisque vous allez changer de nom. Si vous voulez réécouter Happy Boulot, le mag, vous pouvez scanner le petit QR code qui est à côté de ma tête. C'est très facile. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business, même heure, même endroit. Je vous souhaite un excellent week-end.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.